De reprendre notre après-midi après ce bon moment de repas et puis aussi d'échange. On aura tout à l'heure une table ronde, mais c'est aussi l'occasion pendant le moment de repas de pouvoir échanger. Nous avons été déjà bien nourris ce matin par des interventions qui étaient denses et nous allons donc poursuivre cet après-midi. Alors je vous donne brièvement le timing et le planning de cet après-midi. Donc nous allons avoir une première intervention avec Alain Lombé, que je vais présenter dans un instant, sur bien vivre ensemble, humain et transhumain, avec un point d'interrogation. Et puis après, la seconde donc, intervention de Yannick Imbert, sachant que les titres ont été inversés, comme cela a été mentionné ce matin. Donc cet après-midi, ce sera sur une nouvelle identité humaine. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vous avez un livre de Yannick Imbert sur le transhumanisme, justement, que vous pouvez vous procurer sur le stand à la sortie, donc à droite. Et puis, nous aurons donc un temps aussi en groupe de discussion. Et c'est tout à l'heure donc Rachel Vaughan qui présentera ces différents groupes de discussion. Et puis, après la pause, il y aura donc le temps de table ronde avec les orateurs suivis de la conclusion. Donc, nous allons, et je vais laisser la parole à Alain Lombé, qui est donc ancien chercheur de l'INSERM, biochimiste et pharmacologue en molécules. Mais j'ai pas l'original du. Ma version est un peu difficile à lire. Donc, il est membre de la commission aussi de services et de référence de l'Union des KF. Voilà, donc merci pour cette intervention.
Bonjour à chacun et à chacune. Alors, comme le titre de mon intervention voilà. Comment bien vivre ensemble entre humains et transhumains ? Avec un point d'interrogation, bien sûr. Le bien vivre ensemble fait appel à des notions d'éthique, hein, et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous pendant ce temps de conférence. S'interroger sur le bien vivre ensemble, nous allons questionner l'éthique. Et je vais donner d'abord quelques définitions sur lesquelles nous pourrons nous baser. Définition de l'éthique. La première est celle de Elisabeth Sledevski, que j'ai eue comme professeur d'éthique à Paris 11, et qui nous dit que l'éthique est la conscience que les sujets ont d'agir pour et devant autrui, c'est-à-dire le sens que l'action de tout sujet prend pour lui sous le regard d'autrui. La première notion qui est à retenir, c'est que l'éthique n'existe que dans la relation à l'autre. Et c'est Robert Mishrahi qui complète par une autre définition ce qu'est l'éthique, et il propose de la définir comme l'ensemble des principes purement humains qui devrait permettre au plus grand nombre d'accéder à une existence pleinement satisfaisante et pleinement significative, c'est-à-dire à une réalisation heureuse de la personnalité. On est dans le questionnement du bien-être ensemble, du bien-vivre ensemble. L'éthique se préoccupe de cela, du bien-vivre entre moi et autrui, et en s'interrogeant sur cette question fondamentale, qui est mon prochain ? Ou qui est mon proche, je dirais ? Celui que je côtoie tous les jours, celui qui vit à côté de moi. L'éthique que nous connaissons aujourd'hui s'est construite sur près de 3 millénaires, pour celle que nous connaissons en France autour de nous. Elle tire ses origines dans la philosophie gréco-romaine, issue du bassin méditerranéen. Je reprendrai juste quelques mots d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, où il donne cette définition. La vertu morale est fille des bonnes habitudes. De là vient que par un léger changement du terme mœurs sort le terme moral. L'homme de bon conseil, absolument parlant, est donc celui qui tend, en suivant les calculs de la raison, vers ce que l'homme peut réaliser de meilleur. Et puis, l'éthique que nous côtoyons aussi autour de nous, elle est issue aussi du monde anglo-germanique. Je reprendrai aussi cette parole d'Emmanuel Kant dans Les fondements de la métamorphose des mœurs. Il dit ceci, une parole que beaucoup connaissent. « Agis de telle sorte que tu uses de l'humanité en ta personne et dans celle d'autrui, toujours comme fin et jamais simplement comme moyen. » Cette éthique, qui s'est longuement construite, nous a permis de donner une valeur et des droits à l'homme. Son socle a été édifié sur les fondements culturels judéo-chrétiens en Occident. Mais aujourd'hui, elle se heurte à une éthique différente qui s'est construite sur des spiritualités orientales et animistes qui nous viennent d'Asie et qui diffèrent largement de nos conceptions des valeurs attribuées à l'homme et à la vie. Ces valeurs que nous attribuons à l'homme et à la vie, en particulier en France, ne sont pas les mêmes que celles qu'un Chinois ou un Japonais attribue à ces mêmes choses. Qu'en est-il du droit de l'homme que nous avons construit en Europe, au Japon, en Chine aujourd'hui? Est-ce que ces notions représentent la même chose? Ce que nous voyons aujourd'hui, ou ce que nous vivons, c'est une dichotomie de plus en plus forte entre l'Orient et l'Occident, déjà par rapport simplement à la population. Hein. C'est le monde oriental qui est le plus peuplé, qui a la plus forte croissance aujourd'hui. La Chine avec 1,4 milliard, l'Inde qui la rattrape, bientôt 4 milliards dans 2-3 ans. L'Union européenne, qui est la troisième population mondiale, mais qui ne se développe plus beaucoup, son taux de croissance est à peine de 0,1% par an, tout pays européen confondu. Bien derrière les États-Unis, le Japon aussi. Le Japon est le premier des pays, industrialisés, qui voit sa progression diminuer. Il a une progression négative, une population qui vieillit de plus en plus et de moins en moins de jeunes. Les États-Unis aussi, mais c'est compensé par une forte immigration qui fait qu'ils ont un taux d'augmentation aujourd'hui encore important de la population. Une différence importante dans la population qui se retrouve dans ces notions de valeur, ce que je disais tout à l'heure, accordées donc aux hommes. Et on le voit quand on regarde, par exemple, les moratoires qu'en Europe, on développe sur les questions en particulier de bioéthique, les questions de clonage, les questions de nouvelles naissances et autres. Cette séparation est de plus en plus grande entre l'Orient et l'Occident en raison de ces modes de pensée différents. En Europe, nous avons interdit, la Commission européenne a interdit le clonage reproductif. Ces clonages sont en cours de transgression en Chine actuellement. On a mis un frein sur la manipulation génétique par CRISPR-Cas9 chez l'homme, Et ne serait-ce que le mois dernier, et Zhang Qi, qui travaille en Chine à l'université de Shenzhen, annonçait la naissance de jumelles génétiquement modifiées par ces méthodes. Et puis, nous côtoyons de plus en plus, nous l'avons vu ce matin, des robots humanoïdes. Aujourd'hui, aucun statut en Europe ne leur est donné, mais au Japon, ces robots ont des droits maintenant. La loi leur donne des prérogatives quasi humaines. Et quand on les regarde, comme vous voyez sur cette photo à votre droite, leur aspect est purement humain. Leur physionomie est humaine et leurs expressions, nous l'avons vu ce matin avec Peter, se rapprochent de plus en plus des nôtres. Le gap entre les machines et l'homme est de plus en plus indistinct. Le développement ultra rapide des technologies du numérique en Extrême-Orient et en Extrême-Occident et en Californie bouleverse aussi l'homme dans son ontologie et permet d'envisager pour certains une transition de phase de l'homme vers un nouvel état, une nouvelle identité, voire une nouvelle espèce à partir en partie ou totalement artificielle. Alors il nous faut donc aujourd'hui réfléchir comment vivre de manière harmonieuse avec des hommes modifiés, des hommes transformés ou nouveaux, dès maintenant ou dans un avenir très proche, si ce n'est pas le cas déjà avec certaines personnes de notre entourage. Et pour les questions d'éthique, je m'interroge, et vous verrez dans mon discours beaucoup de questions, cette cohabitation pourra-t-elle toujours répondre aux normes éthiques élaborées jusqu'à maintenant ou faudra-t-il en concevoir de nouvelles, plus globales, dans le sens mondial, qui concerne toutes les populations? On peut s'interroger aussi sur l'image que me renvoie cet autre modifié, cet autre moi-même qui a mon visage, cet autre transformé, cet autre nouveau. Me fait-il peur parce qu'il me ressemble un peu par sa physionomie, mais beaucoup moins par son essence? Est-ce que ces différences et ces modifications m'interpellent? Est-il encore en image de Dieu comme celui ou celle qui reste encore dans son état naturel? Alors nous pouvons nous poser la question, est-ce que les transhumains sont-ils déjà parmi nous? Sommes-nous déjà confrontés à des transhumains aujourd'hui? Je dirais oui et non. Déjà et pas encore. Déjà parce que l'homme réparé existe. La première réparation que la moitié de la salle a, c'est ça. C'est nos lunettes. À peu près, hein. Une personne sur deux a sa vue corrigée par des lunettes ou des lentilles. Les prothèses. Quand l'âge avance, on se fait remplacer une hanche ou une épaule, voilà, pour retrouver une mobilité que l'on avait perdue. On peut remplacer un organe déficient par des greffes. On peut implanter des sondes électriques dans la moelle épinière, par exemple, pour faire remarcher des personnes atteintes d'hémiplégie. Ou dans le cerveau même, ces implants peuvent servir à traiter la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, des algorithmes d'intelligence artificielle sont développés pour aider les malentendants et les malvoyants. Nous le côtoyons tous les jours, l'homme réparé. Mais si on va encore un tout petit peu plus loin, on passe de la réparation à l'augmentation. Qu'en est-il quand ces prothèses prennent une grande partie du corps? quand certains, nous l'avions évoqué ce matin aussi, veulent se faire remplacer leurs membres par des prothèses artificielles pour courir plus vite. Quand nous envisageons des exosquelettes pour décupler nos forces, pour des tâches peut-être répétitives, quand nous envisageons de renouveler nos organes avec des régénérations par des cellules souches. Voilà. On n'y est pas encore, mais on est à la frange. Et puis, effectivement, on peut aller encore un peu plus loin. Des hommes transformés, avant tout par l'aide du numérique. On envisage de manière très précise aujourd'hui que des intelligences artificielles pourront se connecter à nos cerveaux, que nous pourrons devenir des hommes ou des femmes cybernétiques, des cyborgs, des organismes cybernétiques. On envisage des procréations totalement artificielles, hors du corps. Alors, comment vivre avec ces personnes? Comment vivre avec des êtres peut-être aussi différents? Sont-ils des extraterrestres? Sont-ils des gens qui font peur? Y aura-t-il des conflits, des heurts? Sera-ce l'entente cordiale pour nous rappeler la filmographie que nous avons en mémoire, La planète des singes, Avatar, etc. Est-ce que les animaux ne vont pas, par leur intelligence aussi, supplanter l'espèce humaine? Et puis, nous l'avons évoqué déjà aussi ce matin, les robots. Les robots de plus en plus ressemblants, qui nous ressemblent de plus en plus, ceux qu'on appelle humanoïdes. Quel statut leur donner? Hommes ou pas hommes? Est-ce qu'ils deviendront plus humains avec des intelligences artificielles qui apprennent, qui leur donneront des sentiments, des émotions, la douleur, la foi peut-être? Qu'en est-il de ces robots? Je disais aujourd'hui, des droits leur sont conférés, au Japon en particulier, en Corée du Sud et en Arabie Saoudite. Voilà, c'est des pays qui ne sont pas de notre base judéo-chrétienne, hein, sur lesquels on n'a pas d'autres choses qui peuvent venir. Il semble que c'est un flou s'instaure entre créateur et créature. Et sommes-nous en train de jouer aux apprentis sorciers en perdant le contrôle de nos créations comme cela nous a été apporté par Victor Frankenstein? C'était il y a bientôt 2 siècles que Mary Shelley écrivait le premier roman de science-fiction, Frankenstein ou le Prométhée moderne. Vous voyez, on est toujours dans le mythe de Prométhée, hein. Victor Frankenstein créait sa première créature faite de morceaux d'humains à qui il donnait la vie. Il s'aperçut que c'était un monstre qu'il a créé en ne lui donnant pas en même temps que la vie des règles éthiques pour bien vivre avec les autres hommes. Alors cette créature s'humanise tout de même au contact des humains, mais le rejet de sa différence le rend mauvais au regard des autres. Il devient un assassin en quête de son créateur. Sa relation se pervertit au point de dire à Victor « Tu es mon créateur, mais moi je suis ton maître. » La créature engendrée sans l'intercession d'une mère a rejeté son père créateur. Il reste seul, seul dans son univers. Est-ce que la transhumanité de demain deviendra-t-elle maître de l'humanité d'aujourd'hui? Nous pouvons nous y interroger. On retrouve dans ce roman, en fait, toute toutes les bases des réflexions que nous avons déjà évoquées ce matin. C'est pas nouveau. C'est dans la mémoire humaine. Mais cette mémoire a tendance à se déplacer de plus en plus vite. Nous sommes dans un monde où tout change de plus en plus vite. Notre rapport à l'autre, notre environnement évolue de plus en plus rapidement pour que nous arrivions à suivre toutes les innovations qui naissent chaque jour. Il suffit de regarder les nouvelles formes de communication et d'échange qui ont émergé depuis 15 ans ou 20 ans. Les réseaux sociaux, entre autres. Même nos générations s'accélèrent. Aujourd'hui, nous sommes les seuls humains qui vivent avec 4 ou 5 générations en même temps. Mes parents, âgés, qui sont ce qu'on appelle les boosters, qui sont nés avant-guerre, moi-même, qui fais partie de la génération des boomers, qui sont nés après-guerre, mes enfants, la génération X, la génération Y, née entre 84 et 99, et puis mes petits-enfants, qui sont nés depuis 2000, et puis après la génération H+, humanité améliorée, transformée, et puis la génération que j'appelle PH, peut-être post-humanité, dans les années 2040 et plus peut-être. Le temps s'accélère. Les boosters ont eu du mal ou ont du mal à se faire aux ordinateurs. Les boomers comme moi ont eu du mal à se mettre au smartphone et aux réseaux sociaux. Mes enfants, la génération X, ont du mal à se mettre au tout connecté. Mais voilà, tout avance, tout se poursuit. De nouvelles formes de commerce et d'économie ont émergé depuis 20 ans, avec les nouveaux leaders économiques mondiaux nés du numérique, Amazon, Alibaba, ce qu'on appelle les GAFAM pour les pays de l'Ouest, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et puis les BATX, c'est la même chose, mais en Chine, avec Baidu, Alibaba, Tencent ou Xiaomi. L'équilibre économique mondial est changé par le web et le numérique. On ne pourra bientôt plus ni acheter ni vendre sans son petit écran greffé au bout de la main ou sa puce implantée. Je m'interroge, est-ce que c'est déjà la marque de la bête que l'on trouve dans l'Apocalypse ? Ces géants dirigent le monde économique. Amazon est passé ce dernier trimestre la première entreprise mondiale, avec une valeur en cash de plus de 1 000 milliards de dollars. Elle a détrôné Apple, qui a fait l'année dernière 60 milliards de dollars de bénéfices. Des chiffres qui donnent le vertige. C'est plus les industries de l'automobile, c'est plus les industries du textile qu'on a connues auparavant, qui sont les leaders mondiaux, non. C'est les leaders de l'Internet et du numérique. Et on peut se poser à quelle éthique se réfèrent ces géants mondiaux dans le monde du commerce. Ils semblent en tout cas très peu enclins, dans leur majorité, à redistribuer leurs richesses à leurs prochains, et la misanthropie semble prendre le pas sur la philanthropie. Leur richesse permet à leurs dirigeants, je pense à Bezos, fondateur d'Amazon, première fortune mondiale aujourd'hui, d'envisager la réalisation des vieux rêves et fantasmes de l'humanité pour échapper à la condition d'homme mortel. S'affranchir de la mort, procréation totalement artificielle dans un environnement stabilisé, c'est-à-dire, en fait, se rendre maître de la mort et de la vie. Voilà dans quoi ils investissent. On peut voir, effectivement, que ça va dans deux directions, ces investissements aujourd'hui. Vers le lointain, c'est-à-dire dans la recherche spatiale, et beaucoup investissent là-dedans, parce qu'ils se disent que, de toute façon, sur Terre, il n'y a pas d'espoir, et il faut aller chercher la suite ailleurs. Google, SpaceX, avec celui qui a fondé PayPal. Et d'autres, au contraire, se retournent sur eux-mêmes, et une voie plutôt, je dirais, régressive, avec une orientation vers une consommation négative, un retour au terroir, le bio et le vegan, en sont les symptômes. Et là, c'est plutôt Microsoft qui investit dans ces aspects. Mais si vous voyez un peu la liste, ils sont tous dans des domaines largement multiples, avec des hégémonies à vue mondiale. Amazon veut une presse, des médias en fait, qui soient pour lui, dans tout le monde entier. Ça, c'est un de ses objectifs, un de leurs projets. À côté des développements d'intelligence artificielle, de robotique, etc., de santé et de prolongation de la vie. On va avec tels investissements vers l'ouverture d'une humanité à deux vitesses. Les riches qui pourront s'améliorer et les moins riches, les plus pauvres, qui ne le pourront pas. Et que sont devenus les principes éthiques que j'ai évoqués tout à l'heure en préambule? Ces principes purement humains qui devraient permettre au plus grand nombre d'accéder à une existence pleinement satisfaisante et pleinement significative, c'est-à-dire à une réalisation heureuse de leur personnalité. Qu'en est-il des droits de l'homme et du citoyen que nous avons édictés en 1789 en France? L'article 1er de ces droits de l'homme dit « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Voilà les bases sur lesquelles nous vivons aujourd'hui et sur lesquelles nous nous fondons. Mais est-ce que les hommes, par toute la planète, aujourd'hui naissent encore libres et égaux, en droit et autre chose? L'homo sapiens que nous sommes, en devenant homo numericus, est en train de perdre sa sagesse et son bon sens. Le numérique remplacera-t-il la sagesse? C'est le philosophe Hans Jonas qui nous mettait en garde il y a quelques années contre ces dérives. Et il fait référence dans le principe de responsabilité au mythe de Prométhée. Vous voyez, lui aussi en tant que philosophe se rapproche aussi comme Marie Shelley de Prométhée. Il fait référence à ce mythe pour faire allusion aux risques inconsidérés liés aux conséquences de certains comportements humains et de certains choix techniques par rapport à l'équilibre écologique, social et économique de la planète. Mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Tout semble s'emballer, même le climat qui ne s'est jamais réchauffé aussi vite. Nous sommes arriver, semble-t-il, à une nouvelle phase de notre évolution. Ou bien avons-nous simplement peut-être des difficultés à nous adapter à tous ces changements? Il semble aujourd'hui que l'homme est atteint des limites dans son adaptation. La technologie évolue avec un développement exponentiel, alors que l'évolution et l'adaptation de l'homme à son environnement est un processus beaucoup plus lent. C'est ce que nous montre la paléoanthropologie. Homo sapiens, dans son histoire, est devenu robuste avec la cuisson de ses aliments et le maniement des outils cailloux. Et puis, une tendance à la gracilité, c'est-à-dire un peu, il a perdu en taille, perdu en force, est venu avec l'apparition de l'agriculture et de l'élevage. Il avait moins d'efforts à fournir pour se nourrir. Et aujourd'hui, nous voyons encore une nouvelle adaptation. La taille, notre taille, réaugmente depuis à peu près un siècle, liée à l'amélioration de nos conditions sanitaires et d'hygiène, à une alimentation plus variée. On a pris 20 cm en un siècle. Notre espérance de vie à la naissance est passée en un siècle de 40 à 85 ans. mais elle semble aujourd'hui s'arrêter, cette croissance, voire diminuer à l'âge du numérique depuis le début du XXIe siècle, en particulier dans les pays occidentaux et extrême-orientaux, dans les mégalopoles urbaines, où on voit apparaître de nouvelles maladies, des pollutions importantes, des cancers de plus en plus fréquents. Les changements trop rapides dans l'environnement ne permettent plus l'adaptation. D'où l'émergence forte de la notion d'évolution artificielle prônée par l'homme lui-même pour suppléer les limites évolutives et adaptatives qui semblent aujourd'hui atteintes. C'est le regain du transhumanisme que l'on voit comme solution pour l'avenir de l'homme et le développement de cette philosophie post-humaniste au XXIe siècle en particulier, concomitante avec l'âge du numérique en plein essor depuis 20 ans. Pascal Pic constate que les transhumanistes ne cherchent pas à améliorer le monde actuel, même si les avancées technologiques qu'ils stimulent y participeront d'une manière ou d'une autre. Ils pensent à un autre monde, à un nouvel âge de l'humanité, et cela ne les intéresse pas de répondre à des questions concernant ce monde dont ils veulent dépasser toutes les contraintes, comme la mort. Le transhumanisme prend donc la forme d'une nouvelle religion qui ne veut pas dire son nom. Dans un monde hyper laïque, comme l'avance Jean-Gabriel Ganassia, il dit ceci, « Les discours sur l'intelligence artificielle et ceux du transhumanisme ont pris une tournure religieuse. En particulier, il recycle une vision eschatologique de la gnose antique décrivant le détachement de l'esprit et du corps humain. » C'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les idées de transmission en fait de tout ce qu'il y a dans notre cerveau dans des machines, la désincarnation en fait de l'esprit par rapport au corps. C'est vraiment dans cette même pensée que évoluent aujourd'hui les transhumanistes. Or l'homme a besoin de stabilité pour se construire, d'éléments fiables et solides pour se développer durablement. Est-ce qu'on est encore dans un tel monde aujourd'hui? C'est le sociologue Zygmunt Bauman qui parle de la transition d'une société solide à une société liquide. En physique, c'est ce qu'on appelle les changements de phase. Passage d'un état solide à un état liquide sous l'effet en particulier des flux incessants de la mobilité et de la vitesse. C'est ce qui caractérise aujourd'hui l'âge du numérique dans lequel nous sommes. Les socles que l'humanité a mis des siècles à construire pour s'établir et vivre le mieux possible les uns avec les autres, les religions, les philosophies, les éthiques, les lois, se dissolvent de plus en plus et de plus en plus vite. Alors, comment vivre ensemble demain? Aujourd'hui, dans une société mondialisée où la substance même de cette société coule entre nos doigts comme le sable, sans pouvoir en retenir quelque chose de relativement stable. Remarquez qu'entre sable et stable, il y a juste une lettre qui fait de la différence. Le T comme transcendance. Alors, est-ce qu'un fondement solide existe encore pour pouvoir bien vivre ensemble? Peut-on trouver ce socle dans un monde en déliquescence et en liquéfaction? Sur quoi ou sur qui pouvons-nous nous appuyer pour reprendre pied, reprendre souffle et vivre ensemble dans la liberté, l'égalité et la solidarité? Existe-t-il encore aujourd'hui un message invariant dans un monde en développement exponentiel avec des gens qui ne s'y adaptent plus? En quoi ce message serait-il encore pertinent? Pour bien vivre ensemble, il nous faut retrouver ses bases, ce qui a fait notre socle depuis toujours et sur lequel l'humanité s'est construite. Une relation les uns avec les autres et une relation extra-humaine, transcendante, et qui ne change pas, et qui est sensible à l'amour et à l'empathie, ce que les trans et les post-humains n'atteindront peut-être jamais. Une parole qui ne change pas, qui nous a créés et qui nous aime existe. Jésus-Christ, le Logos de Dieu, sa parole incarnée révélée aux hommes par la Bible il y a bientôt 2000 ans. Point n'est besoin de quitter la Terre pour Mars ou pour l'espace plus lointain pour être sauvé. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux sont promis à ceux et celles qui conçoivent leur salut en Jésus-Christ seul. Dieu, dans sa grâce, mettra un point d'arrêt à la folie exponentielle des hommes. Alors, en tant que chrétien, aujourd'hui, c'est un vrai combat qui est devant nous. Un combat pour la vérité face aux prophètes de mensonges, les prophètes du transhumanisme. Un combat pour la reconnaissance des limites. Quoi faire? Jusqu'où aller? Quoi ne pas dépasser? Et un combat pour l'amour. Alors je voudrais vous inviter aujourd'hui à être comme Noé, des lanceurs d'alerte, de ceux et celles qui annoncent à leurs contemporains que notre survie est dans l'hétéronomie, c'est-à-dire dans la reconnaissance de notre dépendance au Dieu créateur du ciel et de la terre, et non dans la recherche effrénée de l'autonomie. C'est la définition que donne Henri Blocher du péché, la recherche effrénée de l'autonomie. Cette recherche qui cherche à devenir indépendant de toute autorité divine en devenant créateur d'un autre soi-même, comme l'a été dans le roman Victor Frankenstein. Dieu nous aime et il veut le meilleur pour chacun et chacune de nous, dans la liberté et la conscience. C'est l'éthique immuable que Dieu nous propose pour juger du bien et du mal, pour juger des limites, en sachant où mettre ces limites et ne pas les dépasser pour vivre heureux. Sachons l'écouter et nous aurons l'assurance de pouvoir bien vivre ensemble, les uns avec les autres, en relation avec lui et lui avec nous. Je vous remercie.
Merci beaucoup pour cet exposé qui fait bien le tour de la question. Maintenant, pour être provocante, est-ce que vous pensez qu'en tant que chrétien, scientifique chrétien, non scientifique chrétien, lorsqu'il s'agira de reconnaître le droit de ces robots, qu'on doit s'y opposer ou pas?
J'avoue que je ne sais pas. C'est difficile. Où va se faire la limite? C'est ça. Ceux qui travaillent dans ce domaine essayent justement de les rétrécir, ces limites, en donnant un aspect humain à ces robots, entre autres. Les intelligences artificielles vont leur permettre d'apprendre justement nos émotions, ce qu'on a vu ce matin, reconnaître ces émotions, mais quelque part, est-ce qu'ils auront cette notion de créateur? Ils auront peut-être la notion qu'un homme les aura mis leurs éléments bout à bout, mais est-ce que c'est cela la vraie notion du créateur? Donc, un statut, je ne pense pas que ce soit dans mon éthique aujourd'hui européenne que ce soit envisageable. Mais d'autres, nous le voyons en ce moment, d'autres pays asiatiques en particulier, donnent ces statuts. Alors, bon, j'avoue que je reste interrogatif. J'ai pas de réponse toute prête sur ce genre de choses. Voilà. Je sais pas si d'autres veulent intervenir ou un avis là-dessus. Oui ? Attends. Le micro arrive là.
Dans un monde où l'eugénisme va peut-être régner, est-ce que ce sera un péché de vouloir améliorer son corps et de s'ajouter justement des membres bioniques? Voilà. Qu'est-ce que le christianisme se prépare à dire face à cela?
L'eugénisme, oui, est déjà là et va continuer de plus en plus dans la pensée transhumaniste, entre autres. Et post-humaniste, au point d'éradiquer l'espèce humaine même, complètement. Qu'en faire ? Comment s'interroger sur ces aspects ? On a déjà des prothèses. On en a. Tant qu'elles servent, je dirais, à corriger des défauts, je suis tout à fait d'accord et ça ne me pose pas de problème éthique ou par rapport à ma foi. Mais quand ces prothèses vont prendre peut-être le pas pour que cela change dans mon ontologie, mon être même, là, je dis peut-être non. J'irai pas peut-être jusque-là. C'est toute la problématique du positionnement des limites, ce qu'on a un peu évoqué aussi ce matin, je dirais, entre ce qu'on considère bien et ce qu'on considère mal. Où est-ce qu'on se place? Où on met le curseur? Voilà. Suivant les pays, le curseur n'est pas placé de la même manière. On en a parlé. La seule manière de voir bien les choses, c'est de se placer sous le regard de Dieu, qui lui sait ce qui est bien et ce qui est mal pour nous. Et c'est simplement, je dirais, dans la manière dont on a appris de sa parole ce qu'est le bien et ce qu'est le mal, qu'on pourra mettre ses limites. Et c'est avec notre conscience que Dieu nous a donnée, et l'intelligence qu'il nous a donnée, que nous pourrons, avec l'aide de son esprit, pouvoir positionner ses limites. Voilà. Péché, c'est lui qui nous dit si ça l'est ou pas, pour moi. Voilà.
Alors, en fait, c'était que deux questions. Est-ce que je peux poser une dernière question ?
Merci.
Donc je vais laisser la place à Yannick Imbert pour la deuxième intervention sur une nouvelle identité humaine.